Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et c'est l'heure de la chronique économie avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Hier, la Ville de Montréal a présenté son budget, le premier de Soraya Martinez-Ferrada.
Oui, son premier budget, il était attendu. D'une part, bon, les budgets des villes, les villes sont des gouvernements de proximité, donc ça nous touche directement, puis parfois assez rapidement là, à notre portefeuille, les décisions qui sont prises par nos élus municipaux. Puis aussi, la ville est relativement fortement endettée, puis ça avait, on en avait parlé un peu pendant la campagne électorale municipale, donc on attendait son budget. L'équipe de la mairesse, Mme Ferrada, effectivement, on voulait réduire l'endettement de la ville, puis on va faire certains efforts dans ce sens-là. Alors, le budget, c'est énorme, 7,66 milliards de dollars, une augmentation de 5,4% par rapport à l'an dernier, puis c'est un budget qui est prévu équilibré. Bon. Donc, les revenus sont budgétés, sont égaux aux dépenses budgétées.
Michel, j'ai vu dans Le Devoir un premier budget de 7,67 milliards. Je ne peux pas vous contredire.
Je dis 66, peut-être j'ai mal arrondi, je ne sais pas, ou eux, là, mais 7,66 ou 7,67 milliards, oui. Donc, les revenus... la principale source de revenus, ce sont les taxes foncières. C'est 63% des revenus de la ville. Puis on va avoir une hausse moyenne des taxes foncières de 3,8%. Mais ça varie quand même par arrondissement. Il faut dire que les taxes foncières, bon, évidemment, les propriétaires sont touchés directement, mais indirectement, les locataires aussi, parce que les propriétaires, la plupart du temps, vont passer la hausse de taxes dans des hausses de loyer là, lors du renouvellement du bail. Ils ont le droit de le faire, puis j'imagine que la plupart doivent le faire. Donc, ça touche tout le monde. Donc, si je regardais un peu rapidement là, la variation par arrondissement, l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, là, dans l'ouest, nord-ouest de l'île, plus 6,3% de hausse de taxes foncières. Dans l'est, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, plus 5,7%. Puis un peu plus au centre, Rosemont et Verdun, 5,4%. Donc, ce sont tous des arrondissements où les hausses sont supérieures à la hausse moyenne. Dans le bas, je ne ferai pas tous les arrondissements, il y en a plusieurs, là, mais dans le bas, Ville-Marie, seulement une hausse de 2%. Puis Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, 1,9%. Donc, ça, c'est pour la principale source de revenus, là, les taxes foncières. Les autres taxes, on en parle moins, là, mais la ville tire des revenus des taxes de bienvenue, le transfert des villes reconstituées. Là. Souvenez-vous quand il y a eu les fusions municipales à la fin des années 90, si je me souviens bien, au début 2000, puis qu'ensuite certaines villes avaient voté pour se reconstituer. Elle donne des redevances à la ville-centre, Montréal, pour toutes sortes de dépenses, transports en commun, l'itinérance, tous des services assurés par la ville-centre. Il y a aussi des transferts des gouvernements provincial et fédéral qui vont à la ville.
Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Comment cet argent va être dépensé, Michel?
Bon, alors, la dépense la plus importante... Puis on voit que le budget d'une ville, c'est différent évidemment d'un budget de gouvernement provincial. Quand tu regardes la province, une fois que tu as rentré la santé puis l'éducation, il ne reste pas grand-chose pour le reste. Il y a deux gros postes. Pour la ville, il y a deux gros postes, mais ils sont de moindre ampleur que ceux pour le provincial. La sécurité publique, 17,9% accapare 17,9% des dépenses. Et puis où le bas blesse, la dette de la ville. Donc, le paiement des intérêts, c'est 16,6% des dépenses, qui équivaut à 1,3 milliard de dollars par année qu'on paie en frais d'intérêt. C'est énorme. Transport en commun, 10,5% des dépenses. Plus bas, on a le réseau routier, donc le transport en commun, 10,5%. Réseau routier, 6,2%. Finalement, les choses qui nous touchent directement, les déchets, 3,4%, puis la neige, 2,7%. Donc, c'est la ventilation de ces dépenses-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, sécurité publique puis la dette qui sont qui sont des gros postes budgétaires. Puis ensuite, le transport en commun qui est également important.
Ouais. À propos de la dette, la mairesse a dit que la limite de la carte de crédit de la ville était pas mal passée.
Elle était pas mal pleine. Je pense que ça nous prenait une administration municipale qui s'attaque au problème de la dette, qui était plus que 100 % des revenus de la ville. Donc, on va ramener ce taux d'entêtement-là à 100 % là, dans les prochaines années. Les dépenses notables, là, peut-être qu'on peut mentionner, pour l'itinérance, il y a quelques années, là, on dépensait environ 1 ou 2 millions. L'an dernier, c'était 9,8 millions. Puis là, Martinez Ferrada fait passer le budget à 29,9 millions. Donc, on multiplie pas mal par trois le budget consacré à l'itinérance. On sait que c'est un problème important à Montréal. Là, est-ce que ça va être suffisant? Je ne le sais pas. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais c'est certainement une hausse qui est très importante.
Oui, il faudra savoir comment cet argent-là sera dépensé.
Oui, et puis est-ce qu'on va impliquer les ressources, les gens sur le terrain et tout? Des fois, des ONG font beaucoup pour l'itinérance, là, donc à voir effectivement comment ça va être dépensé. Une dépense ponctuelle, là, j'ai mis notable, là, 18,7 millions pour le championnat du monde de vélo sur route qui va avoir lieu à Montréal l'été prochain. Moi, j'aime bien le sport, mais je suis moins fan d'un investissement public dans le sport. Quoi, c'est ça, c'est pas un sport professionnel autant que pourrait l'être le baseball ou le hockey, là. Mais c'est quand même une dépense qui est notable, là, disons.
Mm-hmm.
Une autre façon de regarder le budget, c'est le coût par maison unifamiliale moyenne. Là. Je pense que c'est dans un article de la presse où j'ai vu qu'on donnait cette ventilation. Donc, je ne donnerai pas tous les postes, là, mais pour une maison unifamiliale moyenne, donc de prix moyen, à chaque année, on paie 820 $ pour la dette, 519 $ pour le transport en commun, 306 pour le réseau routier, les eaux, les égouts, 222, déchets, ordures, 168, puis la neige, 133. Donc, c'est une autre façon de voir que la dette occupe une place importante là, par année.
Mm-hmm.
Ça coûte un ménage moyen dans une maison moyenne, disons, 820 $.
Ça occupe le haut du pavé.
Pardon?
J'ai dit la dette occupe le haut du pavé là, dans ce palmarès.
J'ai pas dit le haut, probablement, parce que ça, c'est juste une autre façon de présenter les pourcentages que j'avais tout à l'heure. La sécurité publique doit être légèrement en haut, peut-être autour de 850 ou 900 $, mais la dette, c'est le deuxième poste avec 800. Donc, c'est pas mal le haut, pas le plus haut du pavé, mais pas mal haut.
Ouais.
Trop haut, je dirais. Donc, pour s'attaquer justement au problème de la dette, l'équipe de la mairesse veut réduire la taille de la fonction publique. Elle en avait parlé en campagne électorale de 1000 postes. À date, bon, ça fait pas longtemps qu'elle est là, elle est arrivée. Les élections ont eu lieu en novembre, puis elle a commencé au 1er janvier, mais il y a eu 65 postes de retranchés, mais on a eu 40 embauches dans les arrondissements, donc une coupure nette de 25. Mais on commence, alors on va voir. Ce qui m'inquiétait un peu, c'est un autre article dans la presse je l'ai-tu gardé ici?
Dans la presse d'aujourd'hui, Michel? J'imagine.
Dans la presse publiée, j'essaie de retrouver l'article. Je pense que j'ai malheureusement enlevé mon onglet, mais c'était sur la démocratie de la ville, la démographie de la ville de Montréal.
Oui.
Donc, il y a des chiffres de l'ISQ, donc c'est des prévisions sur 25 ans. Donc, le premier 25 ans des années 2001 à 2025, la population de la ville a augmenté de 18 % alors que celle des couronnes nord et sud de 37 % Donc, le poids de Montréal diminue, mais on avait quand même une hausse du nombre de personnes qui vivaient sur l'île. L'ISQ prévoit maintenant, de 2026 à 2051, donc le prochain 25 ans, une baisse de 12 % de la population, alors qu'on aurait une hausse d'à peu près 3-4 % pour les deux couronnes nord et sud. D'ici 2030, donc ça, c'est pas loin, là, c'est d'ici 5 ans, on prévoit une baisse de 10 % de la population de la ville qui passerait de 2,2 millions à 2 millions. Pourquoi? Ben, on explique en partie le coût du logement, des règles plus serrées de l'immigration. Bon, Montréal attirait son lot d'immigrants. Donc, la population de la ville diminue. Puis ça, ben, on parle de budget. Ce n'est pas une si bonne nouvelle quand on regarde le côté budgétaire. Ça va avoir des pressions fiscales importantes à financer le service de réseau routier et de transport en commun. Même l'itinérance, là, on a un paquet de frais, j'appelle ça des frais fixes pour gérer une ville, comme le réseau de transport en commun qui a 2 ou 2,2 millions, on va avoir à peu près le même réseau à entretenir, la même chose pour le réseau routier. Une autre conséquence, donc les pressions fiscales, c'est-à-dire qu'on va être moins à payer pour tous ces services-là, donc il va y avoir des hausses de taxes, puis ça pourrait accélérer l'immigration là, de l'île de Montréal vers les couronnes nord et sud. Ensuite, le poids politique de Montréal dans la communauté métropolitaine de Montréal va diminuer. Donc, la communauté métropolitaine, là, c'est toute la grande région métropolitaine qui englobe les couronnes. Bien, le poids de l'île de Montréal pourrait diminuer, ce qui n'est pas de bonne nouvelle pour la ville-centre. Puis en même temps, suite à la COVID, on a une baisse de fréquentation au centre-ville. La valeur foncière des tours à bureaux a baissé. Il y a moins de gens au centre-ville. Si la population baisse, ça va juste exacerber ce phénomène. Donc, c'est pas des super bonnes nouvelles. Est-ce qu'on est capable de renverser la tendance, de rendre Montréal plus attrayante? Je pense que ça pourrait être un défi important pour la nouvelle équipe municipale en place.
Oui, c'est pas les défis qui manquent, mais celui-là est très important. Et concernant la démographie, oui. C'était dans la presse. En tout cas, c'est Maxime Bergeron qui a publié le texte hier en soirée. Merci, Michel.
Oui, très bien. Alors, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.